Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique romaine pour le sixième dimanche.
Ne croyez pas que je sois venu détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu détruire, mais accomplir. Amen, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un iota, pas un trait de la Torah ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Dès lors, si quelqu'un transgresse l'un de ses préceptes, les plus petits, et l'enseigne aux gens, il sera appelé le plus petit dans le règne des cieux. Mais celui qui pratique et enseigne sera appelé grand dans le règne des cieux. En effet, je vous le dis, si la droiture de votre cœur ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le règne des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens,
« Tu ne tueras pas, celui qui tue sera passible du tribunal. »
Or, moi je vous dis, tout humain en colère contre son frère sera passible du tribunal. Qui dit à son frère « Raca » sera passible du Sanhédrin. Qui dit « fou » sera passible de la géhenne de feu. Donc, si tu présentes ton offrande sur l'autel et que là tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et alors, viens et présente ton offrande. Hâte-toi de te mettre d'accord avec ton adversaire tant que tu es en chemin avec lui, de crainte que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que tu sois jeté en prison. Amen, je te dis, tu ne sortiras de là que tu n'aies rendu le dernier quart de sou.
Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas d'adultère. »
Or, moi je vous dis, tout humain qui regarde une femme pour la désirer, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil, le droit, est pour toi occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi perdre un seul de tes membres et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi perdre un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit,
« Celui qui délie sa femme de son lien de mariage, qu'il lui donne une lettre de divorce. »
Or moi je vous dis, tout homme qui délie sa femme de son lien de mariage, sauf pour propos d'inconduite sexuelle, il la condamne à l'adultère. Et celui qui épouse une femme déliée de son lien de mariage, il commet l'adultère. Encore, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens,
tu ne violeras pas ton serment, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur Dieu.
Or, moi je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est le marchepied pour ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, tu n'en peux faire blanchir ou noircir un seul cheveu. Que votre parole soit « oui pour oui », non pour non, tout le reste vient du mauvais. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Voilà un texte rempli d'irritants. Un irritant comme la menace du tribunal pour une simple colère. L'adultère qu'on a déjà commis dans le désir. L'invitation à arracher son œil. Comment peut-on reconnaître dans ces injonctions terribles celui qui est l'auteur de la parabole du fils perdu et du père prodigue en pardon? Est-ce que c'est là le chemin du bonheur que Jésus promet aux petits et aux humbles? De quelle autorité le rabbi Yeshua peut-il imposer à ses disciples de telles directives? On vous a dit, Mais moi, je vous dis. Les foules n'étaient-elles pas frappées de l'autorité avec laquelle Yeshua parlait?
Où se situe notre texte?
Eh bien, il est situé dans le grand enseignement de Jésus concernant la Torah. Cet enseignement va se poursuivre au-delà de notre séquence d'aujourd'hui jusqu'au verset 48. Jésus va y donner sa compréhension de l'amour du prochain, un amour qui devra s'étendre jusqu'à l'amour des ennemis. Et la finale va donner le sens de toutes ces exigences. Vous soyez parfaits comme votre Père des cieux est parfait.
Pas un « i » de la Torah, pas un trait ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qu'est-ce qu'un iota?
Eh bien, rappelons le sens du mot Torah, qui est un terme hébreu et qu'on traduit habituellement par loi. Ce mot désigne l'ensemble de l'enseignement qui vient de Dieu. Et cet enseignement va se trouver dans les cinq livres de la Bible, les cinq premiers livres qu'on appelle le Pentateuque, et il est repris par les prophètes. Il ne s'agit pas d'abord de normes, de règles à suivre, mais principalement de la vision divine sur l'histoire et la destinée de chaque être humain. Et en disant que pas un « i », pas un « iota » en grec ne passera, Jésus fait écho à la tradition de son peuple pour qui la Torah est éternelle, car elle est la parole de Dieu qui enseigne comment l'humanité peut contribuer à faire advenir pour toujours une terre nouvelle de justice et de paix. Le livre de Baruch au chapitre 4 affirme bien cette pérennité de la Torah.
La sagesse, c'est le livre des directives de Dieu, c'est la Torah qui existe pour toujours. Tous ceux qui s'attachent à elle iront à la vie, mais ceux qui l'abandonnent mourront.
La lettre I, en hébreu comme en grec, est la plus petite lettre de l'alphabet. Le trait, mais on pense qu'il peut désigner la pointe, ou la barre, qui peut distinguer deux lettres en hébreu, comme en français ce qui distingue le L majuscule du I majuscule. Même si Jésus va donner une interprétation parfois très nouvelle de la Torah, eh bien nous sommes prévenus que son but n'est pas de détruire, mais d'accomplir. Et Jésus va donner même à son commentaire la même valeur qu'aux paroles de la Torah. Il dira « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. »
Vous avez entendu qu'il a été dit.
Oui, on serait, André, peut-être tenté de traduire « vous avez lu » parce que nous, habituellement, nous lisons la Bible. Mais la Torah, elle était écoutée à la synagogue et l'enfant juif l'écoute de son père à la maison. Israël, le peuple de Dieu, est constamment à l'écoute de son Dieu qui lui trace le chemin de la vie et du bonheur. Chaque matin, d'ailleurs, tout juif récite le Shema Israël, cette prière qui dit « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un ». Écouter au sens fort de ce mot, qui n'est pas seulement entendre, mais qui est accueillir, comprendre, au sens de prendre en soi, avec soi, de faire sien. C'est le sens du mot « obéir », être à l'écoute de quelqu'un. Obéir est formé d'un vieux verbe français « éir » que nous connaissons encore dans l'expression quelquefois employée de « oyer, oyer », « écouter, écouter ». On a donc écouté les directives qui sont celles de Dieu. Il a été dit, comme nous dit ce texte. L'expression est au passif. Alors, on peut se demander qui a dit. Est-ce que c'est Dieu lui-même, puisque le Juif, par respect, évite de prononcer le nom de Dieu. Ou bien est-ce que c'est Moïse? Mais Moïse lui-même a reçu la Torah en étant à l'écoute de Dieu. Et Moïse a transmis cette Torah à Josué. Josué l'a transmise aux anciens, les anciens aux prophètes. Tout dans la Torah n'a de valeur qu'en référence à sa source. Et cette source est Dieu. C'est ce que dit Jésus dans une conversation avec des pharisiens.
Que l'être humain ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ils lui disent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation ?» Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Moi, je vous dis, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère.
Oui, si Jésus se permet de venir contredire la transmission de la Torah, c'est pour revenir au commencement, c'est-à-dire à la source, dans le cœur même de Dieu. On voit Jésus parler avec une autorité qu'aucun rabbi n'a jamais osé prendre. L'expression « moi je vous dis » était d'ailleurs utilisée par les rabbis, mais c'était pour préciser leur position par rapport à d'autres rabbis. Lui, Jésus, éclaire ce qui dans la Torah doit être considéré comme venant de Dieu, à la différence de ce qui doit être compris comme des préceptes humains. En faisant référence à une parole d'Isaïe, Jésus dira aux pharisiens « vous laissez de côté la directive qui vient de Dieu et vous vous attachez aux traditions qui viennent des hommes ».
Qui répudie sa femme, sauf pour propos d'inconduite sexuelle? Qu'est-ce que cette exception dont Jésus parle?
Oui, avant, donnons peut-être une explication, quelques explications sur le mariage dans la société juive d'alors. Rappelons le texte de l'Exode qui donne les 10 grandes directives de la Torah.
Tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain, sur la femme de ton prochain, sur son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, ni sur rien de ce qui lui appartient.
Oui, ce texte reflète bien la manière dont l'épouse était considérée. Elle était vue comme faisant partie de la famille de l'homme, faisant partie de son foyer. L'adultère pouvait donc être considéré comme une violation du foyer d'autrui. Ainsi, la femme était considéré comme adultère, quel que soit son partenaire, alors que l'homme, lui, ne l'était que s'il prenait une femme mariée, parce qu'elle appartenait à la famille, au foyer d'un homme. Rappelons-nous qu'à cette époque, la femme n'avait pas de droits et de revenus propres. Alors si la femme était seule, elle était comme sans famille. Et si elle était répudiée, il lui fallait s'unir à un autre mari pour vivre. Et elle devenait ainsi adultère. Aussi, lorsque Jésus dit qui renvoie sa femme, la condamne à l'adultère, eh bien Jésus, là, prend la défense de la femme.
Mais qu'est-ce que veut dire « sauf pour propos d'inconduite sexuelle » ?
Oh, ça, c'est la bouteille à l'encre. Les exégètes ne savent pas trop comment traduire ici le mot grec qui est « porneia ». Alors, donnons, si tu veux, André, 3 exemples de compréhension. Le premier, eh bien, certains comprennent cette expression, sauf propos d'inconduite sexuelle, comme étant sauf en cas d'adultère. Le motif de l'adultère était en effet accepté par des rabbins pour justifier le renvoi de la femme. Et on trouve même dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, cette phrase, « Celui qui garde une épouse qui a été adultère, eh bien, celui-là est un sot et un impie. » Mais il semble difficile de justifier ce sens. En effet, dans la pensée de Jésus, il n'y a pas de justification du renvoi de la femme pour adultère. Il vient de dire au contraire que cette possibilité du renvoi est une concession de Moïse, mais que cette concession, elle est contraire à la pensée de Dieu. Alors une deuxième explication de cette expression énigmatique, sauf pour propos d'inconduite sexuelle, s'inspire d'un texte du Lévitique qui dit « Personne ne s'approchera de quelqu'un de sa parenté pour découvrir sa nudité. » Alors, ce texte, eh bien, on le voit, il interdit toute union avec des proches parents, sans doute d'ailleurs pour des questions génétiques. Ce sont peut-être ces unions qui seraient visées ici. Ainsi, celui qui serait marié avec une proche parente pourrait la renvoyer. Paul parle d'une telle situation dans sa lettre aux Corinthiens.
« On entend dire qu'il y ait chez vous un cas d'inconduite. » L'un de vous vit avec la femme de son père, avec sa belle-mère.
Eh bien, ces unions entre parents étaient parfois appelées des unions de prostitution. Mais d'ailleurs, certains rabbins permettaient à des gens qui étaient mariés de cette manière-là et qui étaient païens et qui se convertissaient à la foi juive de rester ensemble. Alors une troisième façon de comprendre va s'appuyer sur le texte du Deutéronome où il y a justement une expression hébraïque qui est celle qui doit être derrière l'expression grecque de notre évangile. Et ce Deutéronome donc permettait de renvoyer sa femme pour propos de choses honteuses. Là non plus on ne sait pas très bien comment traduire. Certains comprenaient que c'était pour cause de prostitution, mais il y avait malheureusement d'autres rabbins qui acceptaient n'importe quelle raison, comme celle pour la femme, d'avoir fait de la mauvaise cuisine.
Les textes parallèles en Marc et en Luc ne notent pas cette exception. La septième directive de la Torah dit tout simplement « Tu ne commettras pas d'adultère ».
Oui, et cette expression « Tu ne commettras pas d'adultère » valait aussi bien pour l'homme que pour la femme. Jésus reprend cette exigence et il s'en expliquera d'ailleurs dans le texte qu'on trouve au chapitre 19 de Matthieu.
Au commencement, le Créateur les fait masculins et féminins. L'homme abandonne son père et sa mère, il s'unit à sa femme et ils sont les deux un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Ce que Dieu a uni, que l'humain ne les sépare pas.
Si deux êtres se sont unis, se sont donnés l'un à l'autre pour être un, ils ne doivent pas se donner à un autre en brisant cette unité. Cette unité marque tellement chaque personne profondément son être personnel. Comme Dieu est un, l'être humain est un en étant masculin et féminin, homme et femme. Cette unité est le plein épanouissement de l'être profond de chaque personne. Paul reprendra d'ailleurs ces propos de Jésus dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 7.
J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari et que le mari ne répudie pas sa femme.
Tel donc est l'idéal qui doit inspirer tout cheminement de couple. Mais faisons bien attention, cet idéal doit laisser entière l'attitude de miséricorde qui s'applique à tout échec.
Si ton œil te fait chuter, arrache-le. Il ne faut sans doute pas prendre ce texte à la lettre.
Oui, cette formule est dans le style très expressif de Jésus pour frapper l'imagination et montrer l'importance de quelque chose. Nous avons d'ailleurs, nous aussi, de telles maximes qui volent un œuf, volent un bœuf. La Didaché, au 1er siècle, traduira bien la pensée de Jésus. Ne sois pas sujet à la convoitise, car cette convoitise conduit à la fornication. Autrement dit, ton regard engage ta droiture intérieure. C'est dans le regard posé sur l'autre que tout se joue avant même l'acte. Ton regard en est-il un de respect envers un être qui est une personne avec tout son mystère d'amour, ou bien ton regard en est un de désir de posséder un être comme on le fait pour une chose, en se limitant au plaisir physique sans comprendre ce qui fait de cet être un être spirituel.
Ne faites pas de serment. À notre époque où nous faisons peu de serments, sauf en cour de justice, nous pouvons être surpris de l'importance que Jésus donne au serment.
La Torah interdit de jurer en vain ou à faux. Ne prononce pas de faux serments. Sous le couvert de mon nom, tu profanerais le nom de Dieu. Toute parole prononcée devant Dieu doit être tenue avec la plus grande fidélité. Ben, c'est sans doute aussi que les Juifs avaient fini par abuser des serments, mais tout en inventant toutes sortes de subterfuges pour ne pas être tenus à les honorer. Ainsi, on disait, jurer par le temple, ça ne comptait pas. Mais si on jurait par l'or du temple, alors il fallait tenir ce serment. Jésus veut sans doute revenir à plus de vérité, à moins de casuistique. La lettre de Jacques, au chapitre 5, reprendra cette vision qu'a Jésus.
Ne jurez ni par le ciel ni par la terre, n'usez d'aucun autre serment. Que votre oui soit oui, que votre non soit non.
En effet, ces subterfuges ne font que miner la confiance que l'on a entre les personnes. et aucune communauté humaine, qu'elle soit familiale, religieuse ou autre, ne pourra garder son unité si personne ne peut plus faire confiance à la parole de l'autre. Et André, on pourra peut-être s'étonner que l'Église ait cru bon et croit bon encore de faire prêter serment à ses prêtres ou à ses théologiens ou à ses évêques, malgré cette injonction très claire de Jésus.
Ne croyez pas que je sois venu détruire la Torah.
Oui, eh bien, cette pensée pouvait habiter certains des pharisiens et des scribes qui côtoyaient Jésus parce qu'ils le voyaient souvent ne pas respecter certaines règles, notamment les règles qui concernaient le sabbat ou les ablutions. On accusera même Jésus de ne pas avoir beaucoup de piété. Lui et ses disciples ne jeûnent pas comme le font les disciples de Jean ou les disciples des pharisiens. On ira même jusqu'à traiter Jésus de glouton et d'ivrogne. Il sera condamné d'ailleurs à Jérusalem en partie à cause de cette désobéissance à la Torah.
Mais qu'est-ce que la Torah ?
Mais pour les Juifs de cette époque, ce mot recouvre deux réalités. D'une part, la grande règle donnée par Dieu à Moïse en 10 grandes directives, ce que nous appelons nous les 10 commandements de Dieu. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Mais à ce noyau de la Torah et aux 613 articles qui le complétaient s'ajoutait toute la Torah orale, non écrite. Cette tradition avait surchargé le fardeau de la Torah de nombreuses réglementations auxquelles Jésus va s'opposer parce qu'elles ne sont plus vraiment inspirées par l'amour, parce qu'elles se sont coupées de leur source qui est le cœur de Dieu. Jésus revient sans cesse à la source de la Torah, cette source qui est pour lui le cœur d'un Dieu qui nous apprend à aimer comme lui et qui nous donne son esprit pour aimer notre prochain avec la force de son amour. Déjà, dans les siècles précédents, des prophètes comme Ézéchiel et Jérémie avaient redit très souvent cela.
« Je vous donnerai, dit Dieu, un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. » J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je déposerai mes directives au fond de vous-même, les inscrivant dans votre être.
Oui, c'est en fonction donc de l'amour que tout doit être jugé, critiqué, éprouvé. Une règle de vie ne peut se justifier que parce qu'elle nous trace les chemins de l'amour vrai et de la liberté. Sinon, elle ne vaut rien. Tout geste, tout acte doit être éprouvé en fonction de l'amour qu'il engendre en nous, ou en fonction de ce qu'il nous éloigne de l'amour. Ainsi, la colère, si elle est un mouvement d'impatience qui est explicable par la fatigue ou le stress, eh bien, ça n'est pas tellement grave. Mais si cette colère, elle, est engendrée par la haine, eh bien, cette colère peut tuer, sinon physiquement, du moins moralement. Qui hait son frère est un meurtrier, comme le dit la première lettre de Jean. Donc, lorsque Jésus demande à ses disciples que la droiture de leur cœur surpasse celle des scribes, que veut-il dire ? Parce que ces pharisiens, ces scribes, sont droits, ils payent la dîme, ils prient au premier rang, ils font l'aumône, ils jeûnent. Alors qu'est-ce que Jésus leur reproche ? Ben, il leur reproche peut-être de tout faire avec un cœur sec, avec, j'allais dire, une intention de marchandeur. Ils font ce qu'ils doivent pour mériter les faveurs de Dieu, ou bien même simplement pour être honorés de leurs concitoyens. Ils font certes de bonnes choses, mais ce qui les motive, ce n'est plus l'amour. En faisant tout cela, prière, jeûne, aumône, scribes et pharisiens, oublie l'essentiel. L'essentiel qui est l'amour généreux, gratuit, un amour sans condition, le seul amour qui nous fasse vraiment grandir et vivre. Sans amour, il n'y a pas de liberté, mais sans liberté, il n'y a pas d'amour. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 13, Paul aura de merveilleuses formules pour dire cela.
L'accomplissement de la Torah, c'est l'amour. Celui qui aime son prochain a pleinement accompli la Torah.
Et le grand saint Augustin disait, une phrase que l'on répète souvent de lui, « Aime et fais ce que tu veux ». Ce qui ne veut pas dire « aime et fais n'importe quoi ». Mais si tu aimes en vérité, alors tu ne pourras faire que ce que tu veux vraiment. Et c'est sans doute aussi le sens qu'il faut donner à l'expression de Zendel à quelqu'un qui venait se confesser d'avoir une maîtresse, et Zendel lui répond « Aime-la davantage ». Alors comment traduire aujourd'hui ces exigences de l'amour? Eh bien, essayons-nous à donner quelques exemples.
On vous a dit, tu communieras au moins une fois l'an.
Et moi je vous dis, chaque fois que tu communies, médite longuement la parole de l'Évangile. Ainsi le pain de vie te nourrira et te fortifiera.
On vous a dit, tu as l'obligation de confesser tes fautes mortelles.
Et moi je vous dis, ne te couche pas sans t'être réconcilié avec ton prochain. Si tu l'as blessé, implore son pardon. S'il t'a blessé, dis-lui généreusement ton amour.
On vous a dit, le vendredi tu ne mangeras pas de viande. Deux fois l'an tu jeûneras.
Et moi je vous dis, de temps en temps, prive-toi volontairement. Et le prix de ta privation, donne-le à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est à chacun, à chacune, de trouver dans sa prière quotidienne ce que l'Esprit lui inspire pour grandir dans la vérité, pour grandir dans la liberté de l'amour, pour accomplir toute la Torah.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Nous sommes également sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse exacte de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.